Et salut à toutes et salut à tutti, bienvenue pour ce sixième épisode de Game Lovers, le podcast corse des amoureux de jeux vidéo. On le dit jamais assez, de temps en temps j'oublie comme ça ma petite introduction. Alors je le redis, Game Lovers c'est le podcast corse, il faut pouvoir le dire, les enchaîner les deux mots, de jeux vidéo. Et aujourd'hui on est encore à notre épisode 6, hein, comme vous le savez, on coupe nos épisodes en deux. Une émission intitulée Amour de jeunesse. Je vais vous en dire deux mots tout de suite, mais d'abord, je vous rappelle que pour ceux qui nous écoutent et qui nous découvrent sur Radio Calvi Citadel, vous pouvez également nous écouter et retrouver tous nos épisodes en podcast sur toutes les plateformes de streaming audio, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, j'en passe et des meilleurs, sur YouTube également avec des contenus des à côté, on va dire ça comme ça, des à côté du podcast. Et enfin, bientôt sur Twitch en vidéo. Alors ça a été tenté dès ce soir et on va en parler justement avec les charmants intervenants qui nous font le plaisir de nous accompagner ce soir. On a avec nous, on a la chance d'avoir quelqu'un qui nous vient de loin, qui nous vient d'outre-Atlantique et que je vais introduire en musique. Ne présente plus peut-être dans la région calvaise.
Tu parles.
C'est Romain.
Bonsoir.
Comment ça va?
Bah, très bien. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation.
C'est toi qui nous invites dans tes locaux. Est-ce que on rappelle à la communauté calvaise qui es-tu, que fais-tu, pourquoi de ta présence ici ce soir?
Alors, pour faire vite, Romain de Sondenac, je suis réalisateur, j'ai une société de production qui s'appelle Casa Bonita. Je suis artiste aussi, des expositions, souvent photographiques. Et je suis là ce soir parce que j'aime beaucoup ton émission.
C'est gentil.
Vraiment, et ton concept, et que...
Ne dis pas ton, parce que je veux quand même inclure...
Votre concept,
voilà.
Alors.
Ouais, inclure nos partenaires.
Et que, bah voilà, et que je voulais, dans un premier temps déjà, vous aider et voir si je pouvais vous aider sur la vidéo, parce que la radio, c'est pas forcément mon domaine, mais la vidéo, ça l'est.
Et alors, on a vu. Non, on n'a pas été déçus.
Hein. La réponse est oui.
On a vu ce qu'on a vu.
J'ai pas beaucoup aidé, j'ai mis à disposition le studio.
Non, c'est de ma faute, c'est parce que c'est... Voilà. Je suis arrivé avec mon propre matériel que j'ai voulu adapter au studio de Romain, et une chose en entraînant une autre, les rebonds sonores ont été assez conséquents, n'est-ce pas? Mais
on n'abandonne pas.
Mais on n'abandonne pas, parce que, voilà, on vous explique le principe des vidéos sur Twitch, c'est que elles vont servir, entre guillemets, d'introduction à l'émission. On ne fera pas le podcast en live vidéo. Il s'agira simplement d'un petit temps de détente pour nous de temps en temps, ou peut-être on va se filmer avant une émission, on va peut-être décrypter l'actu du jeu vidéo, vous proposer ce genre de choses-là, mais ça ne viendra pas remplacer le podcast, et le podcast, lui, pour l'heure, il n'est pas prévu qu'on le filme. Ensuite, on accueille...
Et Fred, toujours là.
Toujours là, mais je vais quand même t'introduire en musique.
Ah,
voilà. Je t'introduis en musique, parce qu'il n'y a pas de raison que toi non plus tu n'y aies pas droit. Parce que tu nous viens de loin à chaque fois. Hein.
D'Ajaccio.
On ne le dit jamais assez. Je crois que c'est le seul mec, à part Bernard Arnault, qui systématiquement, quand il participe à un truc, il se déplace en avion.
Hein,
il se déplace en avion, tu vois. Alors, c'est pas le...
Alors, pour ceux qui ne savent pas, je suis Steward Air Corsica, et je suis ici créateur de bandes d'arcade via Retro Arcade Game, depuis 5 ans, des bandes d'arcade en Corse. Voilà, Fatun Corsica.
Et magnifique d'ailleurs, hein, les bandes d'arcade.
On essaye de faire le maximum.
Il y a des collaborations officielles avec Marvel qui arrivent.
Avec Marvel, avec Marcelli Pidi aussi.
Ouais.
Calvec, on reste dans le thème.
Qui sera bientôt là d'ailleurs. Enfin, on va faire une petite émission pour. Je vous tease un petit peu, je donne un petit. Allez, un petit chocolat comme ça. On fait du name dropping. Probablement qu'on va faire une spéciale art et jeux vidéo dans les semaines à venir, donc on vous tiendra peut-être un peu informé, notamment sur les réseaux. Hein. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube et tout ça, vous savez. Et bon, on vous en parlera. Enfin, messieurs, je vais m'introduire moi-même, parce que vous avez vu qu'il y avait quand même une trajectoire californienne dans les morceaux. Ça, c'est tu m'as inspiré, hein, Romain. Je te cache pas que... Il est allé, alors, il était à, non, Chicago.
Chicago, ouais.
Chicago.
Aussi, Middle West.
It's coming from America. Et donc, j'ai dit, allez, on se fait une petite introduction en musique de l'oncle Sam. Et moi, je me mets un peu d'hôtel California.
Ouais, alors.
Parce que je me sens un peu comme ça. Je me sens un peu comme
un peu nomade.
Non,
le nomade du podcast.
Je me sens un peu comme comment il s'appelait Jack Nicholson dans dans Shining.
Oh, la vache,
comment il s'appelait Jack Torrance.
Jack
Torrance.
Je sais plus exactement bien.
Ouais. Bloqué le soir dans un hôtel qui n'est pas mon domicile.
Bon, c'est toi.
Je suis un expatrié parce qu'aujourd'hui on est chez Romain. Que je remercie à nouveau parce qu'on va pas imposer ça non plus. Enfin, je vais pas imposer ça à ma compagne non plus, hein, mon émission tous les soirs. Donc aujourd'hui, on est ravis. Je suis ravi d'être à l'Hotel California de Romain. Donc messieurs, on va reprendre là où on en était resté la fois dernière. Cette émission donc qui était et qui continue d'ailleurs d'être intitulée Amour de jeunesse parce que on avait parlé de cette tendance du jeu vidéo à alors, je dis pas à la redite, mais à remettre en avant de façon assez systématique ces vieilles gloires. Alors, on avait parlé de la différence qu'on faisait entre les portages, les remakes, les remasters et les reboots.
Et les émulateurs.
Et alors, tu vois, alors, on en a pas parlé, mais c'est vrai que les émulateurs permettent aujourd'hui de jouer à des vieux classiques. Alors, si vous jouez sur des émulateurs, vous pouvez jouer sur je ne sais pas combien de versions d'un même titre, hein, parfois.
Des dizaines
sans doute. Donc on avait commencé à vous parler du portage. Donc le portage, c'est... Tu veux rappeler en quelques mots, Fred, parce qu'on va pas refaire l'émission, mais...
Bon, le portage, c'est le copier-coller, tout simple. Très simple, on passe d'une machine à l'autre, on adapte le jeu, on modifie un petit peu pour s'adapter aux caractéristiques techniques.
Voilà, on fait un jeu et puis on s'assure qu'il tourne sur toutes les machines.
Il va tourner un peu sur tout.
Et en fonction des performances des machines, le jeu ressemblera...
On perd en qualité technique.
Ou on gagne
si c'est meilleur, ouais.
Donc on avait parlé du portage qui avait connu ensuite, sous l'impulsion de Sony, une nouvelle dénomination.
Ce qu'on appelait la HD.
Voilà, ils les ont appelés les remakes HD au moment de leur fameuse HD collection au moment de la PS3.
Voilà.
Qui a commencé à reprendre ses jeux de la PS2.
Donc là, c'était quasiment le même principe.
Ouais, on touchait pas une ligne du code source du jeu.
Le jeu ne changeait pas, quoi. Il y avait quelques bonus ajoutés, mais le jeu était le même.
On avait rigoureusement la même expérience, si ce n'est que
plus beau.
On était plus confortable.
Voilà.
Cette tendance, alors au portage qui se faisait d'abord au sein d'une même génération, puis ce qu'on a appelé le portage HD qui voilà. Lui se faisait à cheval entre deux générations.
Entre deux générations de consoles.
A fini par donner ce qu'on a appelé plus tard les remastered, c'est-à-dire que.
Ce qui est la même chose. Hein,
voilà.
C'est la même chose. On est passé de la PS3 à la PS4, PS5, et c'était les mêmes choses. On améliore le jeu par des retouches graphiques.
On garde le jeu d'origine, le matériau d'origine, pas, voilà. Et on lui redonne une patine. Enfin, on va l'améliorer, le pimper.
Le pimper.
Et proposer aux joueurs la meilleure expérience possible voilà. De ce jeu-là au moment, à date
adapté de sortie, à la génération de console.
Yes. Et enfin, puisqu'il en reste un dernier.
Le remake.
Vous voyez, le remake.
Alors, le remake, c'est autre chose. Là, par contre,
lui m'intéresse beaucoup.
Là, on refait le jeu, mais on le refait vraiment en profondeur. Et quelquefois, on modifie même l'histoire, des personnages, on change le point de vue de l'histoire pour faire un nouveau jeu.
Alors, le principe du remake. La dernière fois, on avait un peu posé ce parallèle en disant que ce dont on parlait précédemment, les portages ou les remasters, on pourrait, si on les comparait à ce qui se fait dans le monde du cinéma, les comparer à des sorties successives sur différents formats. Vous sortez votre film d'abord sur VHS, puis en DVD.
DVD, Blu-ray.
En Blu-ray, et ainsi de suite, de sorte
que... Ça s'est fait beaucoup dans le cinéma. Tous les grands classiques sont sortis sur les trois formats.
Voilà. Mais donc, à chaque fois, vous gagnez en qualité supplémentaire.
Voilà.
Votre film sera... d'autant plus beau, son niveau de détail sera un peu plus...
Les commentaires du réalisateur en bonus...
Voilà, quelques ajouts à la marge, mais le film en lui-même ne change pas.
Le film ne change pas.
Si ce n'est que on lui donne... on peut le coloriser pour certaines vieilles gloires, on peut retravailler le son. On voit le film à l'identique, mais dans sa meilleure version.
Dans les meilleures conditions.
Tandis que le remake, lui, si on devait le comparer à ce qui se fait au cinéma... On est davantage sur une relecture du même.
Exactement, c'est ça.
On en avait parlé nous pour King Kong par exemple, qui avait connu plusieurs adaptations, mais qui était rigoureusement le même. On aurait pu parler des Batman, mais qui pour certains, c'est vrai, sont peut-être un peu
Batman, davantage des reboots, on change des remakes. Voilà, c'est plus des reboots à chaque fois.
Non, quels autres
Il y a un exemple chez Carpenter. C'était avec Kurt Russell, les Los Angeles, les New York 97.
New York 97.
Et après, il y a eu Los Angeles
2016 ou 2012.
Ouais, 2012, je ne sais plus, hein, 2012, ouais. Je crois. Bon, en fait, c'est très drôle parce que c'est le même film.
C'est le même film.
On lui a juste donné plus d'argent. New York 97, il a fait de manière complètement fauchée. Et du coup, je sais plus quel studio a dit John, putain, c'était super intéressant, tu voudrais pas nous faire le même, mais j'aurais plus d'effets spéciaux et ça se passe en Californie et c'est trop bien. Et ils lui ont donné un paquet de fric et c'est très drôle parce que.
Il y aura deux semaines comme montage.
Et c'est très drôle parce que tu peux même faire le parallèle des deux films, scène après scène, c'est vraiment les mêmes séquences.
Et les scènes sont.
Alors c'est pas pareil à 100%, mais c'est la même trame narristique.
C'est le remake suite.
Ah ouais.
C'est là où il est fort.
C'est ça.
Alors, je l'ai pas vu, moi.
Très bon exemple.
Donc, je vais avoir des difficultés à en parler, mais en revanche, les plans sont jamais changés, les angles de caméra sont conservés.
Non, tout est changé.
D'accord.
Et c'est ça qui est fort. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait, tu découvres que la narration est la même et que la façon de filmer la réalisation un petit peu change et évolue parce qu'il y a plus d'argent, il n'y a pas les mêmes protagonistes, il n'y a pas les mêmes personnages, même si la trame est pareille.
Et c'est, voilà, et c'est la différence aussi qu'on faisait dans les remakes de jeux vidéo, c'est-à-dire que les personnages sont les mêmes mais ne sont pas les mêmes parce que d'une époque à l'autre, leur physique ou leur représentation a évolué et a évolué de façon significative. On a pris l'exemple de Final Fantasy VII, les petits personnages chibi de 97 n'ont plus rien à voir avec les adultes du remake en 3D de 2020. Idem pour les angles de caméra, pour le gameplay, la réorchestration des morceaux.
Ou comme avait dit John sur Resident Evil, où Ada Wong prend une place plus importante dans l'histoire. Voilà.
Avec un personnage qui, parfois, creuser l'identité.
La narration qui change, voilà, tout simplement, comme a dit Romain.
Donc ça, c'était pour le remake, c'est-à-dire qu'on conserve une œuvre pour ce qu'elle avait à nous raconter.
Voilà, exactement.
On a globalement l'intention de raconter la même chose. Seulement, on va le faire en ne s'interdisant jamais d'y apporter des changements en termes de scénario, en termes de réalisation, de mise en scène, de possibilités graphiques de l'époque, d'angle de vue.
FF7 remake, c'était l'exemple parfait. C'est-à-dire qu'ils ont repris les personnages en les mettant dans d'autres situations et en changeant la trame, en fait.
Et puis ils l'ont poussé loin parce que, on peut s'arrêter un moment là-dessus. Voilà, moi j'ai adoré cet aspect-là. Alors pour ceux qui ne l'ont pas fait, ce qui est assez intéressant dans le remake de Final Fantasy VII sorti donc en 2020, c'est que tout du long, il y a des entités qui sont autour de vous et qui plus ou moins contribuent à ce que l'histoire se passe rigoureusement de la même manière que dans le FF7 original et qui à chaque fois qu'on sent que l'histoire a envie de prendre son indépendance par rapport à l'original et aurait envie de sortir des clous. Il y a ces espèces de créatures fantomatiques qui sont là comme des garde-fous pour dire non, reviens sur les rails de l'histoire et les personnages à la fin se dressent véritablement contre ce destin, s'émancipent de ces entités qu'on peut regarder comme les joueurs ou comme le poids de l'héritage de l'œuvre qui disait depuis 25 ans, 30 ans, rigoureusement le même. Alors que la vraie volonté du studio, c'était de dire on fait un remake.
On fait un remake.
Et un remake,
alors que les joueurs voulaient.
Peut nous libérer de tout ça.
Les joueurs voulaient vraiment un remaster, ils voulaient vraiment le même jeu refait plus beau.
Oui.
Le studio a dit non, on fera un remake.
Pour le studio, ça présentait peu d'importance. Enfin, d'ailleurs, plusieurs l'ont dit, refaire l'œuvre identique.
Surtout le gameplay a vieilli. Je suis pas sûr que les joueurs d'aujourd'hui, les jeunes joueurs, colle auto partout,
non, et puis, si même,
très rigide, très...
En dehors même du gameplay, ce qui est vrai en plus, c'est vrai que nos façons de jouer, elles ont évolué, il faut peut-être coller à son temps et tout ça.
Et voilà.
Mais moi, je me mets à la place d'un réalisateur, tu vois, ou d'un créatif, ou d'un directeur, peu importe le nom que vous leur donnez, en plus...
À quoi bon refaire la même chose?
Il
faudrait demander à Romain, qui est dans l'audiovisuel, je sais pas s'il y a l'intérêt à refaire
la même
chose.
Si t'es payé à 20 ans d'intervalle à reproposer la même chose, seulement on t'a mis la dernière caméra, dernier cri dans les mains, mais on te propose de faire la même chose, c'est pas très emballant. Si en revanche, on te dit, un retour réflexif sur ton travail...
Après, en voyant plus loin, souvent ce qui se passe, du moins ça existe dans le cinéma, je pense que dans le jeu vidéo aussi, c'est qu'il faut jamais oublier que, en termes de business, tu as les projets, on va dire coup de cœur, les projets que tu veux développer toi en tant que réalisateur ou que producteur parce que ça te tient à cœur, et les projets commerciaux. C'est les projets que tu vas faire parce que tu vas être super bien payé et je pense que les remakes, ça peut rentrer des fois dans ce cadre-là. On te propose un remake d'un truc que tu as fait il y a 25 ans qui potentiellement pourrait financer d'autres projets. c'est des trucs un peu à la Peter Molyneux qui a eu un peu ces quatre figures là, bah tu le fais, tu ouais. Après c'est chacun avec son.
Donc tu peux négocier en disant je vous fais le remake qui va rapporter du blé et vous laissez faire mon petit truc perso.
Voilà, exactement, qui aurait peut-être jamais vu le jour ou du moins pas dans ces conditions. Donc quelque part, ça peut être aussi quelque chose de vertueux, c'est un grand mot, mais pas si uniquement marketing.
Ouais, pas si cynique. Ouais,
pas si cynique, ouais. Exactement.
Non, c'est vrai que ça peut être un bon moyen, effectivement, de capitaliser sur, comme on disait la dernière fois, un univers qui est déjà installé, des personnages dont on connaît déjà la psyché, on va pas avoir besoin de les creuser. On repart pas de zéro, donc on se dit, ok, on a potentiellement, alors je vais dire une vache à lait, je sais que ça va peut-être pas plaire aux consommateurs d'entendre dire que ouais, ils sont traités comme ça, mais n'empêche que
Pokémon, c'est une vache à lait.
Oui, voilà. Et de se dire, on a ce truc-là qui est bankable, sur lequel on peut compter pour nous permettre par ailleurs de développer des projets où on va prendre plus de risques, plus créatifs, on va s'autoriser de...
Peut-être que FF16 a bénéficié du remake. Peut-être qu'ils ont dit on peut financer FF16
probablement
parce que le remake a cartonné. Ouais.
Mais tu vois, ils auraient pu s'arrêter à ça. Ils auraient très bien pu se dire on s'arrête.
On fait un copier-coller, bien sûr.
Voilà, on fait un copier-coller, fastoche. On a tout ce qu'il nous faut. On le refait tel quel. On prend nos sous parce que de toute façon les fanboys passeront à la caisse.
Ouais.
Ça nous permettra de lancer le suivant et on est tranquille. Et ben ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait parce que je pense qu'ils ont quand même saisi un peu de quelque chose de l'esprit de ce jeu et d'à quel point les gens sont attachés à ce jeu parce que pour moi il est hors norme.
Ah, le premier jeu, oui.
Il y a peu de jeux sur PS1 comme FF7 qui ont marqué autant une génération entière.
Alors c'est drôle du coup parce que pardon, je te coupe, mais moi j'aurais une question pour vous parce que c'est marrant, ce jeu je l'ai connu comme tout le monde quand il est sorti.
Ouais.
Donc c'était PS1.
PS1.
Ouais. Et je me rappelle d'y avoir joué et je me rappelle comme tout le monde d'avoir pris une grosse claque et d'avoir été inspiré vraiment par ce jeu. Mais alors, c'est drôle parce que moi qui, je crois, n'ai quasiment jamais joué à des remakes, c'est vraiment pas quelque chose spécialement qui m'attire. Et du coup, je suis curieux de voir ce qui attire vraiment les gens. Vous, par exemple, qui avez fait, c'est quoi le truc? C'est, par exemple, déjà, est-ce qu'il y a une différence entre se dire, OK, je vais me faire le remake, ou tant qu'à faire, se refaire la version originale?
Alors, moi, je peux te donner une première réponse. Peut-être que tu te diras ce qu'il en est le concernant. Moi, c'est le jeu de ma vie, mais vraiment, jusqu'à maintenant, elle n'est pas bien longue, mais en termes de jeux vidéo, c'est celui qui m'a le plus marqué, celui auquel j'ai le plus joué et celui auquel j'ai le plus rejoué. Et tout de suite, dans les premières années, parce que vraiment, c'était, il faut se remettre dans le contexte des années 90, enfin, fin 90, début 2000, il y a très peu d'Internet. Quand il y a un peu d'Internet, c'est au cybercafé. Il y a quelques magazines de consoles et tout ça. Et on est dans un monde de la rumeur permanent. Notamment dans le jeu vidéo,
des rumeurs de peut-être avec une aura déjà.
Ouais, complètement.
On en parlait avant qu'il sorte.
Il avait déjà une aura, on sentait déjà que tout le monde se disait attendez, il y a PlayStation 2 qui arrive. Vous imaginez si ça c'était sorti sur PlayStation 2 parce qu'il y a peu d'intervalle en fait, à 3-4 ans d'intervalle. Et à ce moment-là, Internet sort et sur Internet sortent un tas de rumeurs autour de ce jeu. Donc il y a une fascination qui se crée autour de ce jeu, on a envie d'y revenir. Et puis moi je l'aime beaucoup parce que c'est un jeu qui a beaucoup à te raconter en fonction des étapes de ta vie. Quand tu joues en tant que gamin, tu portes pas le même regard. Quand tu joues 3 ou 4 ans après, il y a des choses que tu comprends mieux ou que tu comprends différemment.
Des niveaux de lecture.
Il y a différents niveaux de lecture. Il y a un truc. De mon point de vue, il y a d'abord le premier niveau de lecture, les gentils contre les méchants, quand t'es gamin. Puis tu grandis un petit peu et tu te dis, ah oui, d'accord, en réalité, il y a un méchant derrière le méchant. Il y a aussi un propos au sujet de la terre qu'il faut conserver, préserver, etc. Ok, troisième niveau de lecture. Ah, mais le personnage, en fait, il a une double personnalité, voire même, il est schizophrène ou dépressif. Et à mesure que je l'ai fait au cours de ma vie, parce que c'est le jeu auquel je suis le plus revenu, tu vois, à chaque fois, j'avais l'impression d'y ajouter un truc. Et en grandissant, tu vois, tu lis des extraits de la Bible, tu t'intéresses à la mythologie nordique, machin, et tu y reviens et tu dis, ah, mais si ça s'appelle Midgar.
C'était vrai.
En fait, mais c'est parce que cette ville tentaculaire, elle est construite comme un arbre avec un plateau, et en fait, c'est comme le Midgar du monde des humains de la mythologie nordique, comme l'Yggdrasil. Et puis après, tu te dis, ah, mais quand même, ce peuple des Cétra, là, les anciens, qui ont une terre promise, ça me dit un truc, tu vois. Et tu te dis, ce serait pas l'Ancien Testament, machin.
C'est là que tu comprends que le jeu est énorme dans sa narration et dans ses thèmes abordés. Moi, j'y ai joué, j'avais déjà 25 ans, ce jeu. J'étais plus âgé que Maxime. Et c'est vrai que c'est la première fois que je voyais un jeu comme ça. C'était incroyable au niveau de la narration, des enjeux, de la manière des personnages, les relations entre eux. C'est incroyable.
Et alors, du coup, ça revient à cette question. C'est,
mais du coup, qu'est-ce qui te motive à...
En fait, qu'est-ce qui touche, en termes de l'âme, qu'est-ce qui te touche le plus de rejouer à l'original, avec ses graphismes, ou du coup, est-ce que la remasterisation te procure les mêmes sentiments?
C'est fou, c'est assez, enfin.
C'est forcément différent parce que tu.
C'est très différent.
T'as grandi, tu vois plus les choses pareilles. Maxime le dit très bien, à plusieurs étapes de ta vie, tu changes, tu vois les choses différemment. Mais il reste un côté nostalgique très fort, évidemment. Tu es attaché au personnage, à l'histoire. Et tu as envie de faire remake, oui.
Le remake ne fera jamais l'effet du jeu original.
Mais il fera pas le même effet.
Et c'est tant mieux. Parce que c'est pas ça qu'ils
ont voulu. C'est pas son but, en fait.
Ce qu'ils ont voulu, c'est justement que
trancher
quand tu
les
joues, c'est curieux, en fait. Ils font appel à ce référentiel commun de cette œuvre, vous la connaissez tous, vous l'avez parcourue dans tous les sens, vous avez fini par comprendre tout ce qu'elle avait à vous raconter, à vous dire. Et du coup, j'ai pas du tout le même sentiment quand je joue.
Ouais.
J'ai pas du tout l'impression de jouer au même jeu.
Ils ont tranché.
J'ai l'impression de jouer à un jeu qui commente le premier, à la limite, quand je joue au remake. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que je me dis, purée, les gars, vous avez compris, quoi. Vous avez compris qu'on avait tous un lien très fort, qu'on y était très attaché, que pour beaucoup d'entre nous, on avait grandi avec lui. Et qu'on l'avait redécouvert systématiquement en y revenant. Et
à la fin.
Et c'est un peu cette forme de lecture que vous nous proposez aujourd'hui, de la plus belle des façons. Donc.
Et à la fin, ils nous disent, on vous amène ailleurs. Voilà.
Et.
On va rester dans le même univers, mais vous allez voir autre chose.
Ouais.
C'est même pas on coupe le cordon à la fin. Parce qu'à la fin, il te dit, bon, ben non, ça franchit un peu le premier. Et en gros, vous l'aimez le jeu original? Nous aussi. On vous en a fait la démonstration. Vous avez fait la première partie du remake. On l'adore, on vous respecte et tout ça. Mais comprenez que nous, on a envie d'être créatifs. On a envie de voir ce qu'on peut faire avec ce même univers. Et ça, moi, je trouve que c'est... En termes de remake, c'est la meilleure lecture que j'ai vue d'un remake.
C'est sans doute le meilleur remake. C'est clairement le meilleur remake. Je vois pas un jeu remake aussi qui garde et qui, en même temps, propose autre chose, qui va au-delà du jeu d'origine.
Et puis, c'est subtil parce qu'il te le dit jamais frontalement.
Non,
il te dit jamais frontalement.
On le comprend avec les entités qui
viennent. Oui, mais tu vois, il pourrait très bien y avoir un personnage qui s'adresse au joueur directement, tu sais, façon un peu, on casse le quatrième mur, je te regarde dans les yeux et je te dis,
non, ça va changer.
Laisse-moi vivre ma vie ou laisse-moi faire mon chemin, tu vois. Ça pourrait se faire de manière plus grossière. Et cette idée, des esprits qui te remettent sur le chemin en permanence et qui finissent par appeler le destin. Bon,
à des moments clés, en plus. En plus, c'est bien jalonné tout le long de l'histoire. C'est une vraie démarche artistique.
Ouais. Non, c'est assez fort.
C'est fort. Ils sont forts.
Et donc, on avait fini par parler du reboot, qui était donc cette tendance à relancer.
Relancer une franchise en...
Alors, relancer une franchise, c'est plutôt prendre une franchise existante et... Oui, la relancer après tout. Comment on pourrait traduire ça, reboot? Redémarrer, en fait.
Il y a le relaunch,
c'est marrant, il y a des spécificités, parce que par exemple, un exemple tout bête, les Fallout ne sont pas des reboots. Fallout 76 n'est pas un reboot.
Non.
Donc reboot, c'est aussi reprendre, en fait, la diégèse du film. Donc la diégèse, vulgariser, c'est l'univers. C'est-à-dire que c'est comme dans un film encore, j'ai souvent des parallèles cinéma.
Ça nous va.
La diégèse, c'est au début d'un film, on va vous établir les règles de l'univers. Un exemple tout bête, très geek, Star Wars. Star Wars, dès le début du premier film, on comprend que, ça se passe dans le passé,
très
l'espace, les vaisseaux font du bruit, alors que, bien sûr, rien ne fait du bruit dans l'espace, il y a du feu dans l'espace, il y a des sables laser, ça n'existe pas, mais en fait, voilà, c'est on vous place le monde et on dit au spectateur, tu prends ou tu prends pas, mais mon monde, il est comme ça.
Ce qui est diégétique, c'est les règles qui sous-tendent le fonctionnement d'un monde imaginaire ou...
Et c'est ce qui, d'ailleurs, pose des problèmes par la suite, c'est que il n'y a pas de problème au niveau de la diégèse. On peut inventer ce qu'on veut.
On peut
partir du principe d'avoir un film dans un monde où les gens volent la tête à l'envers tous les jours. Le plus important, comme tu dis, c'est de pas casser ces codes. Et Dieu sait... S'il y a des films et des jeux vidéo.
Je pense à un film avec Tom Cruise qui respecte pas ses propres règles, d'ailleurs. Comment il s'appelait? Un film avec Tom Cruise où il y a plus d'humanité, mais ils sont dans des espèces de bases.
Oblivion. Pourtant, j'adore.
Alors, Oblivion.
Plein de choses à raconter.
Fais attention à Oblivion, parce qu'en plus, il est vachement, c'est pas que ce soit un jeu vidéo, mais il est très marqué aussi par, je pense, tout l'imaginaire qui gravite autour de, l'imaginaire SF. On va dire ça comme ça. Oblivion, il brise des règles qu'il établit en cours de film. Ce qui va pas, tu vois, c'est ce qui fait que ça nous sort du film. J'ai entendu dans un podcast.
C'est intéressant.
Je l'ai plus du tout en tête.
Ah, d'accord.
Mais il faudrait que j'aille recreuser. Mais il m'avait marqué pour ça, moi. C'est que je me rappelle le voir et me dire, mais non, globalement, il arrive quelque chose, mais qui est pas supposé arriver. C'est qu'on me dit, là on peut pas y aller parce qu'on ouais. peut pas respirer, et d'un coup le personnage enlève son masque ouais. et il respire 3 secondes après.
J'aimerais bien voir sur les arguments, j'adore ce film.
Et du coup, j'essaierai de te retrouver. Il y avait un article en plus qui l'est compilé, qui était pas mal fait.
Parce que j'ai pas pensé de manière analytique. Tu sais, des fois, il y a des films comme ça où
tu les regardes,
ça passe les barrières et ça touche, et donc du coup, tu
t'en fous. C'est pas grave, je kiffe.
Bah, considérez qu'en fait,
il y a pas les lumières rouges qui s'allument.
Ouais, ouais. Tous les éléments sont, lorsque les éléments sont diégétiques, bah, en fait, ça veut dire que vous croyez au monde. Vous avez pas de difficulté à vous insérer dans ce monde.
C'est ça.
Il paraît crédible. Il y a des codes tangibles, on les comprend, ils apparaissent éventuellement à l'écran.
On appelle ça la suspension d'incrédulité.
Voilà, et la suspension d'incrédulité justement fonctionne, c'est-à-dire que
On accepte ces règles.
Notre incrédulité, on la met de côté et on se dit, ok, dans le cadre du fonctionnement de ce monde, ça sera après tout, on va accepter que ce soit crédible. Mais ça ne peut fonctionner que si l'œuvre, film ou jeu,
reste cohérente.
Voilà. Comme si vous commencez à écouter une symphonie de Beethoven et qu'au milieu, ça part en trip.
Voilà. Alors, du coup, c'est intéressant.
Trip tectonique, il y a un moment, ça colle
du
plus.
Du coup, ouais, voilà, c'est intéressant. Est-ce qu'un reboot peut partir sur notre diégèse? J'essaie de réfléchir, par exemple, je pense que le bon exemple, ça peut être un peu le dernier Batman. Parce que pour moi, en film, dernier Batman, c'est clairement un reboot parce que ça renvoie balader un peu.
Comment il s'appelle?
Comme ce qu'avait fait Nolan, d'ailleurs. Nolan était un reboot, le nouveau avec Pattinson.
Nolan, moi, je le sens comme un reboot. Et ouais, celui avec Pattinson.
Ah oui, c'est du reboot. Ils ont communiqué là-dessus en disant on va faire un nouveau Batman, en fait.
Ouais.
Il se passe pas dans le même univers, en plus. Il n'y a pas de lien avec les autres films. Donc,
alors, c'est ça qu'imaginait, tu vois, par exemple, dans
les Batman sont un bon exemple de reboot. Parce que moi, mon sentiment, c'est que dans un reboot, tu reprends des codes forts, des marqueurs forts, et que tu conserves, et tu t'autorises à t'affranchir de ce qui est plus accessoire. Mais en revanche, c'est comme s'il y avait des poutres de la maison, tu vois, tu vas refaire toute la maison, mais tu conserves que tes piliers. Et il faut les garder. C'est le cas dans Tomb Raider, c'est le cas dans God of War, les fameux reboots célèbres dont on avait parlé du jeu vidéo, on avait évoqué cela. Tu vas garder les fondations. Les fondations, c'est un personnage fort, qui a quand même une histoire qu'on va essayer quand même de maintenir dans ses fondamentaux. Une forme de brutalité pour Kratos, ou bien Lara Croft est une exploratrice, elle va le rester. C'est une femme forte, elle va le rester. Mais en revanche, ce qui peut lui arriver, ce qui a pu lui arriver, ou ce qui va lui arriver,
on n'en tient pas compte.
On n'en tient pas tellement compte. On peut se permettre, au contraire, de proposer une vraie relecture du personnage.
Complètement. Et surtout, je pense le reboot ne prend pas compte de l'état du personnage dans l'épisode précédent.
Mais oui, c'est important.
Exemple tout bête.
Ouais, oui, ça franchit complètement.
Finit par boiter à la fin d'un truc parce qu'elle a un genou éclaté. Un reboot va pas du tout prendre ça en compte.
Alors souvent dans les jeux vidéo, c'est en origin. C'est qu'on repart sur du personnage plus jeune pour le montrer.
Oui, le fameux prequel.
Comment il est devenu le personnage qu'on connaît. Ils ont fait sur la raccroche, je crois. Elle commence plus jeune.
Exact.
On la voit qui est pas du tout exploratrice, qui le devient un peu par force, suite à un accident, et qui prend goût et qui évolue, quoi.
Exact.
Alors, on va parler du D-Make. Alors, le D-Make. Non, vas-y, Fred, explique.
Alors, le D-Make, c'est une pratique qui est pas du tout faite par les studios de jeux vidéo. C'est plutôt les amateurs, c'est les gens qui font ça eux-mêmes. Et en fait, c'est prendre un jeu, par exemple, l'exemple connu que Maxime aime bien, c'est Bloodborne, qui est sorti sur PS4. Et il y a des gens qui se sont amusés à le porter avec un moteur de PS1. Donc, du coup, le jeu perd toute son identité graphique. Enfin, on reconnaît le personnage.
Mais c'est une super mode, ça, en ce moment.
Ouais. Et oui.
Ah, ok, c'est ça.
Et du coup,
ça avait été devancé parce qu'ils appelaient d'abord les pixels quelque chose. Enfin, ils prenaient un jeu récent. On essayait de lui donner une petite teinte en pixels. Mais alors, le D-Make, c'est que vraiment, il essaie de te reconstruire. Pour les récents, moi, que j'ai vu tourner, j'essaye vraiment d'en faire comme un jeu PS1.
PS1, complètement.
Et
ils ont même sorti le Kratos, le dernier Kratos.
Oui, je l'ai vu.
En tour par tour, RPG tour par tour.
Donc c'est un truc vraiment de fan, c'est vraiment.
C'est un truc de fan.
Oui, là c'est vraiment du fan made, mais bon, alors ça en l'occurrence.
Je sais pas si c'est jouable vraiment. Si c'est.
Et puis surtout, ça n'a pas de vraie valeur économique ou quoi que ce soit.
C'est du délire de fan pour s'amuser.
J'ai vu le contraire, mais récemment, cette semaine, sur YouTube, un programmeur, justement, qui lui avait passé Super Mario, le premier, en 3D. Et explique comment il faisait dans un univers. Et il a refait tout le premier niveau.
En 3D.
Avec toutes les animations en 3D, en voxel. Et il a refait. Et pareil, il disait, bon, c'est pas du tout jouable, parce que du coup, il y a tout un truc, hein, par rapport au traitement de la caméra, le Z dans ta profondeur et tout, qui déconne. Mais, et le mec, je crois, a passé des mois dessus, quoi, à programmer ça.
Mais ça montre l'attachement qu'il y a pour ces vieux jeux, en fait. Et pour l'univers des jeux PS3.
Oui, ça veut dire quelque chose, quand même.
Il y a une vraie culture du jeu vidéo qui s'est installée, une vraie histoire, et.
Ah oui.
Ouais, voilà, c'est devenu une culture, voilà, c'est une vraie culture autour de ça maintenant.
Non, parce que le remake, tu ne peux pas l'envisager si tu n'as pas été au préalable un joueur d'une autre époque.
Si t'as pas joué à la PS1,
que tu regardes avec nostalgie. Donc, du coup, sous-entend quand même que, comme tu dis, tu vois, il y a une espèce d'attachement au moins au médium ou à son histoire à certains, la typologie de certains jeux, la façon dont ils pouvaient se faire il y a de ça quelques années ou décennies maintenant.
Je pense que de la même manière que les gens regardent des vieux films, il y a des gens qui jouent aux vieux jeux en disant, bah, tiens, bah, j'en ai entendu parler, oui, bah, y a mon grand frère qui m'a dit que c'était bien, ah, je vais essayer pour voir à quoi ça ressemble. Une vraie culture, quoi.
Même si je reconnais qu'il peut parfois être difficile aujourd'hui de jouer à certains classiques. Parce que
ça devient compliqué, ouais, quelquefois.
C'est vrai qu'ils ont vieilli et c'est aussi là que, justement.
Mais déjà, pour y
est-ce
jouer.
Que c'est pas quelque chose qui justifie le remake, ça. La tentation de faire connaître de vraies gloires du jeu vidéo. Quand un médium commence à ce point à vouloir proposer de vieilles œuvres.
Ben, je te répondrai à une question. Si quelqu'un veut découvrir FF7, tu vas lui proposer quoi? Le jeu PS1 ou le remake?
Non, aujourd'hui, le jeu PS1. Celui qui veut.
Donc, tu vas proposer le jeu d'origine, quand même.
Aujourd'hui,
c'est inhérent au médium, ça, c'est marrant.
Si en revanche, tu me dis de la
Star. Alors qu'un film, est-ce que tu vas proposer un film de 1930 en noir et blanc ou le remake en couleur?
C'est surtout que tu peux le regarder. Ouais. C'est que d'un coup, jeu vidéo, t'as aussi mine de rien la contrainte de la console.
Il y a ça aussi.
C'est sortir ta PS1, sortir ta télé CRT 4 tiers.
Non, tu parlais d'émulation tout à l'heure.
Ben oui, voilà. Oui, c'est vrai.
Alors, faut être comme l'a dit très bien défini. Il a dit, faut aimer la bidouille. C'est vrai, faut aimer la bidouille.
Ouais,
si tu veux émuler, mais
souvent.
Moi, ça devient quand même.
Alors, émuler, tiens d'ailleurs, parce qu'on en a pas dit deux mots. Émuler, en fait, le principe, c'est que vous téléchargez un logiciel sur votre ordinateur. Qui se fait passer pour une vieille console, en fait. C'est comme ça. Si vous aviez une console virtuelle à l'intérieur de votre ordinateur qui va vous permettre de lancer, des jeux qui eux aussi seront virtuels. Parce que,
qu'on appelle des ROM.
Voilà. Qu'on appelle des ROM, d'où le fameux CD-ROM.
Après, je vais être old school là-dessus, mais quand même, il y a ce côté, quand je vais chez des amis qui ont gardé un CRT, une vieille télé, à cathodique, avec une console originale.
Ah, c'est pas pareil.
Enfin, moi, ça me fait toujours, ce côté vraiment vidéo, ce rendu vidéo. Pourtant, j'ai des émulateurs, j'ai des consoles d'émulation.
Mais les écrans font pas le même travail non plus.
Il y a quand même.
Il y avait des filtres, ce qu'on disait la dernière fois sur les cathodiques. Enfin, il y avait une optimisation qui était faite.
Mais ça devient compliqué d'y jouer sur ces vieux jeux sur le média d'origine. Parce qu'il faut trouver la console. PS1, il y en a encore plein en circulation, mais pour combien de temps? Il faut trouver la manette, il faut trouver le jeu, pas rayé parce que c'est du CD, donc faut qu'il soit en bon état. Il faut la carte mémoire, il faut la CRT, il faut la télé cathodique.
Mais ça explique aussi le nombre de rééditions. Alors là, il s'agit pas de remake, mais ces jeux ressortent sur les plateformes, PS Store, le Xbox Store, Steam, enfin voilà quoi. Toutes les plateformes virtuelles sur lesquelles vous pouvez télécharger vos jeux. Aujourd'hui, ce catalogue de classiques, il existe, on peut y jouer. Alors, est-ce que vraiment on retrouve l'expérience originelle? J'en sais rien. Mais cela dit, pour des jeux plus récents, tu vois, je pensais tout à l'heure à The Last of Us, qui a quand même eu deux remasters. Il y a eu l'original PS3, il y a le remaster PS4, il y a le Part 1 PS5. À la fin, quelqu'un qui veut jouer à The Last of Us, aujourd'hui, toi, tu lui proposes quoi? De sortir sa vieille PS3, s'il en a une, et d'y jouer?
Ça dépend, s'il a une PS5 et qu'il joue sur PS5.
Tu vois, donc,
non, parce que
ça peut servir à ça, mais...
Parce que le jeu est pas si vieux que ça, il date de la PS3, donc...
Et pourtant, tu lui proposes déjà d'y jouer dans sa meilleure version.
Ouais, parce qu'il sera meilleur, peut-être.
Comme sur un FF8, tu vois, FF8, par exemple, qui est sorti sur le store PlayStation avec quelques améliorations, joué en vitesse x4, les graphismes un peu retapés, bon, ils l'ont appelé remake, enfin, c'est impropre.
The Last of Us, à part le gap graphique et d'embellissement, tu rejoues FF7 sur une télé, t'as les pixels, t'as tout ce pixel art qui est différent, tu vois.
Non, je suis d'accord.
Ça donne une autre idée au jeu. Ouais. T'as plus d'imagination qui travaille que sur un Last of Us ou bon, le jeu de son, qu'il soit sur PS3, PS4, PS5. Alors,
est-ce que.
Par la plus jolie.
Moi, ça me ramène à cette question-là. Est-ce que ça vaut le coup de jouer à quelque chose qui soit plus moche? Est-ce que parce que c'est plus moche, ça fait travailler différemment notre imaginaire?
Alors, c'est une très bonne question. Je sais que personnellement, j'ai toujours, c'est par vague, c'est comme une courbe. J'ai des périodes où d'un coup je me dis « Oh mais je rejouerais bien des vieux jeux, les émulateurs, c'est trop bien et tout !» Et au final, ça c'est vraiment un problème, j'ai jamais réussi à jouer plus de...
Ça s'essouffle.
Ouais, ouais. Plus de...
Parce que...
Plus d'une demi-heure, et encore, mais alors ça doit être...
Des poussées de vie.
Ah ouais, un vieux jeu.
Et c'est quoi qui te dérange? C'est le graphisme?
C'est une super bonne question.
C'est le gameplay?
Ouais, c'est la...
C'est... Ça va pas être ça.
La simplicité, il y a plus de... T'as non, plus d'excitation. Même des jeux que j'ai connus gamin qui m'ont...
Donc c'est pas le jeu qui a changé, c'est toi en fait?
Oui.
Probablement, c'est toi, c'est nous qui avons changé.
L'époque et nos habitudes de jeu aussi. Pensez à ça.
Temps pour jouer aussi.
Oui, en fait, c'est ça. Les jeux avant te laissaient largement plus de temps parce que il y avait un, deux, trois, éventuellement gros jeux par an que tu pouvais te payer et tu y jouais sur le temps long et tu étais enfant. Ça correspondait au moment où tu sortais de l'école.
Les vacances.
Et il fallait rentabiliser l'achat de ton jeu. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il te tienne 4, 5, 6 mois. Du coup, les rythmes des jeux étaient vachement plus.
Là, ça va trop vite. Ça s'enquille tellement les sorties.
Et on avait le temps. Tandis que là, ton jeu, s'il n'est pas plié dans les 2 semaines, 2 semaines plus tard, il y en a un autre qui sort. Donc, à un moment donné, il faut quelque chose de nerveux qui aille vite. Et on s'est peut-être aussi un peu habitué à ça. Ouais, c'est-à-dire que le tour par tour de FF7,
ouais, c'est compliqué. C'est
super mou, attendre que ta barre de temps, elle arrive. Alors
et puis
que...
surtout, passer 120 heures à faire le jeu, parce que si tu veux vraiment tout explorer, voilà, et sur 120 heures. C'est compliqué, hein.
Ouais.
C'est compliqué.
T'as même pas... fait peur.
Non, mais quand on était gamin, bien sûr que non. Mais non, maintenant, mais de nos jours, passer 120 heures sur un jeu...
Mais c'est drôle parce
on a,
que...
Est-ce qu'on les a les 120 heures?
De plus en plus quand même, c'est incroyable.
Surtout quand t'as 10 jeux qui sortent...
dans l'année.
4-5 triple A, plus des jeux qui t'intéressent, plus tout
si
ça.
Si on prend que l'année là concernée, enfin je pense à tout ce qui a pu sortir de chouette. Elden Ring à lui seul, c'est 100 heures. God of War Ragnarok, il doit bien en peser 40 ou 50 sur son histoire.
Voilà.
Allez, j'exagère, 30 ou 40 pour son histoire principale. Plague Tale, Requiem, on doit être pas loin de la trentaine aussi.
Si tu rajoutes un Assassin's Creed,
tu te dis, j'ai fait 5 jeux dans l'année, on me propose de jouer 300 heures de jeux vidéo.
T'as fait 5 jeux.
Faut avoir du temps devant soi, quand même, hein.
Ouais.
En te disant, ah, j'en ai loupé encore 4 ou 5 qui m'intéressaient bien, mais j'ai pas le temps.
On a tous un backlog,
un
catalogue de retard, largement fourni.
Qui tous les ans grandit.
C'est ce qui m'a fait moins jouer, hein. C'est qu'à un moment...
T'as plus le temps.
Bah, et t'as plus le temps. Et moi, je me rappelle vraiment de ce sentiment très violent. Et c'est marrant parce que je le dois. C'est et les MMORPG qui m'ont mis là-dedans. On parlait tout à l'heure de mots
hors
antenne. C'est que c'est cette espèce de sentiment archi désagréable d'avoir joué 5, 6, 7 heures, des fois, quand t'es étudiant, d'arrêter et te dire... Alors, je sais que plein de gens vont pas être d'accord, mais te dire, putain, j'ai rien appris.
J'ai rien fait.
J'ai pas évolué en tant qu'humain. Ouais. C'est con, c'est horrible à dire. Mais moi, ça me faisait vraiment ça.
Ouais, ouais.
Que tu t'entraînes à n'importe quoi. Je sais pas, que tu fasses des photos, que tu fasses des maquettes, ce que tu veux, que tu dessines.
Ou du post-cap.
Tu vas évoluer, tu vas apprendre des nouveaux skills, tu vas. Le jeu vidéo, c'est un peu comme presque regarder un film. Alors après, c'est très intéressant parce que c'est ça que je trouve génial.
Il y a des jeux qui t'apprennent.
Il y a quand même des jeux qui t'apprennent des choses.
Qui
te posent des questions.
C'est ce que je me dis, ouais.
Fais Bloodborne. Je te renvoie vers... Non, je t'assure, c'est le jeu de ces dernières années qui m'a le plus... Oh là là là, il fait tout bien, il fait tout bien. Alors, avant de terminer avec un petit jeu, je vous ai prévu une surprise. Je l'ai inventé dans la journée. Alors, ça n'a aucun sens. Préparez-vous, ça n'a aucun sens.
T'as préparé un jeu en réunion.
Non, pas du tout.
En classe.
Alors, c'est une idée qui m'est venue en regardant le journal télévisé ce matin. Oui, le mec a été reçu sur un plateau. Bref, je veux pas trop vous en dire. C'est un jeu très facile à organiser. C'est un jeu que je vais organiser comme ça, mais alors vraiment sur le pouce. Vous allez voir, j'ai pas eu besoin de préparation. J'ai juste eu besoin d'y penser pour me dire ah, ça va être génial. Avant ça, concluons un petit peu donc sur ces fameux remake, reboot, remaster, tout ce que vous voulez. Est-ce que c'était mieux avant? Et le cas échéant, alors ne donnez pas, il n'y a pas de réponse définitive à apporter. On s'en fiche.
Et juste un point qu'on n'a pas abordé vraiment, c'est l'aspect économique aussi.
C'est
devenu très important pour les studios de le faire.
Bon, on en a un peu parlé dans
bon,
ce
ouais, sujet un
petit tout peu à l'heure. Ça peut nous permettre, quand on est un studio de développement, de gagner de l'argent facilement.
Non, parce qu'on disait, on en parlait tout à l'heure avec Romain, c'est le coût des jeux surtout. Produire un jeu vidéo maintenant, si vous avez des ambitions, pas triple A, mais même en dessous, il faut beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent.
Centaines de millions d'euros.
Et donc le remake, c'est de l'argent... facile, même le reboot ou le remaster, c'est de l'argent facile.
On en avait parlé un peu dans la première émission, quoi.
Ouais,
quand t'as pas grand chose en définitive qu'il faut, voilà, tu t'as pas de graphiste que tu vas embaucher parce que t'es modèle.
Surtout, t'as même des sous-traitants, Bluepoint, là-bas. marque très connue, une entreprise très connue qui spécialisait dans les remakes.
Il faut que ça. Deux remakes extraordinaires. Voilà. Celui de Shadow of the Colossus et de Demon's Souls. Si vous voilà. avez pas fait, c'est beau. Hein.
Et après, moi, pour moi, le truc, c'est un peu, c'est comme un peu comme la drogue. Il y a ce truc que si tu as vécu quelque chose de fort avec un jeu ado, même
plus
vieux, hein. Je pense que tu peux jamais le récupérer. Tu sais, on dit toujours que les drogués, tu deviens accro parce que la première fois que tu découvres quelque chose, c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça un fixe, que les ça s'appelle un fixe parce que tu essayes de fixer le problème que tu as créé la première dose. Le fixe, ça vient de là.
D'accord.
Mais ouais, okay. C'est de retrouver l'état que tu as connu la première fois que tu ne retrouveras jamais. Bref. Et pour moi, ça fait un petit peu penser à certains jeux
aussi,
comme ça où tu as vécu une connexion tellement forte avec un jeu qu'on te le ressort 10 ans après. T'as la nostalgie, certes, qui arrive, tu dis, oh, trop cool! Comme réécouter un morceau que t'adorais, il y a quelques années, un morceau de musique. De là, vivre la même chose, c'est très personnel, mais je pense que c'est pas possible.
Tu as raison, parce que, sur FF7, parce que c'est le meilleur exemple, en fait, de mon point de vue que j'ai en tête.
Remake. Je pense pas qu'il y ait mieux.
C'est le cas d'école, quoi. Celui aussi qui est facile à aborder.
C'est
parce
le pur remake.
Il se différencie tellement de l'original que vraiment on te proposait, tu vois ce que tu disais là. Fais voir un peu si tu veux me procurer les mêmes sensations que l'original. Et en effet, j'ai dit tout à l'heure, non, c'est un autre jeu, de mon point de vue. Mais non, ce que j'ai vécu avec le premier, je continue. Mon histoire avec le premier, d'ailleurs, de mon point de vue, elle est même pas finie parce que je vais encore le refaire, Mais non, mais quand je dis c'est le jeu de ma vie, mais vraiment, je vais le refaire et encore plein de fois. Tu vois. Tiens. Pour te donner un exemple, FF7, je l'ai fait en tout, hein. Donc sur ma PS1, première du nom. Je compte pas le fait que je l'ai fait sur PS2 parce qu'il y avait rétrocompatibilité. Hein.
Oui.
Je l'ai fait sur iOS, sur tablette. Je l'ai fait sur téléphone, avec un émulateur. Je l'ai fait sur ma PS3, je crois que je l'avais acheté. J'ai dû le racheter sur PS4, je l'ai refait. Je l'ai fait, mais absolument sur toutes les plateformes. Et je l'ai fait sur Steam, modé, et j'ai découvert. Tu vois, au bout de tout ce parcours, donc t'imagines, le jeu, je l'ai eu, mais sous toutes ses formes, dans les mains, de toutes les façons possibles et inimaginables, j'ai découvert qu'il était possible de sauver Aeris grâce à un bug que sur les versions Steam et PC.
Mais, incroyable.
Mais tu vois, sur la version console, tout le monde a rêvé ce truc-là, tout le monde a rêvé de le faire. Il y avait des rumeurs en disant il faut collectionner ceci, cela et tout. Tout le monde pensait que c'était impensable. Alors, en fait, c'était faisable. C'était faisable via un bug, mais un bug qui a été trouvé, mais des années plus tard, et que moi, du coup, j'ai découvert, mais vraiment en étant adulte.
Et je continue, du coup, comment ça se passe?
C'est comme pour...
Le jeu est bugué, mais il continue.
Il
reste avec toi.
Mais dans ton équipe. Et alors, il faut l'enlever, d'ailleurs, de certaines scènes suivantes, parce que sinon, elle peut te faire planter.
Eh oui, c'est
parce
ça.
Qu'elle n'est pas supposée être là.
Mais et c'est là que, tu vois, Final Fantasy VII, ça restera un des plus grands jeux de tous les temps. C'est l'émotion qu'il a pu procurer, et notamment la scène d'Aeris quand elle se fait...
Elle se fait quoi?
Elle se fait poignard. Oui, pour ceux qui ne savent pas encore, la mort, c'est la première fois que je voyais un personnage central d'un jeu vidéo qui mourait. J'avais jamais vu ça.
Quand on l'enlève de façon définitive.
Quand on l'enlève, là, quand on la retire complètement, voilà. Bon, dans Mario, il meurt ton personnage, mais il revient. Ouais. Là, il disparaît. Voilà, c'est fini, c'est terminé.
Et tu t'es bien amusé pendant 15 heures,
voilà,
tu t'es bien attaché.
Tu l'as bien développé.
Mais elle est où ma soigneuse? Mais comment on va faire maintenant? Mais en fait, c'est ça, c'est que le jeu te met dans un dilemme en disant voilà, t'avais ta soigneuse, ton groupe bien organisé, mais je te l'enlève maintenant, débrouille-toi sans. Donc il y a beaucoup, là aussi, le jeu, les développeurs se sont amusés à ça aussi.
Tu sais, c'est comme l'éternel, bon, ça fait une parenthèse, mais l'éternel passage obligé dans tous les jeux, du moment où tu vas perdre tout ton équipement et tu vas te retrouver en prison, ou tomber dans les pommes, ou insérer éléments aléatoires pour te faire tout perdre et te donner l'impression que...
C'est vrai que ça, il le fait beaucoup, parce qu'il y a le moment à Midel où on
parle de
Cloud parce qu'il est dépressif, t'as le moment où tu vas à Wutai, Yuffie te vole tous tes matériels, t'as le moment où Aeris disparaît de façon définitive. En un sens, il y a plein de moments sans concession où il te met,
c'est la première fois que j'avais l'impression que le jeu m'enlevait quelque chose. Voilà, c'était très marquant.
C'est pas
d'ailleurs, moi, sur le coup, je me rappelle la première fois que je l'ai vu, je me dis, on va la ressusciter.
C'est ça,
une petite plume de chocobo et c'est reparti, quoi.
C'est vrai, pourquoi la queue de Phoenix, elle a pas marché?
La queue de Phoenix, pardon. C'est le scénario.
Ça aurait pu, hein.
C'est scripté, comme on dit, maintenant on dirait c'est scripté.
D'ailleurs, tiens, sur des bugs tardifs, ça n'a rien à voir, c'était même pas un remake ni un remaster, je sors complètement du cadre. Mais voilà, comme ça, vous le saurez. Il est possible d'avoir Mew sur Pokémon Bleu. Voilà, je vous le dis. C'est un bug, hein. C'est un bug méfaisable sur Game Boy. Je le dis à tous ceux qui, comme moi, ont cru qu'il fallait pousser des camions avec machin, ça. Non, c'est possible.
Ouais, mais... Pokémon, c'est quoi alors? C'est des reboots, c'est des remakes, c'est quoi? Parce que...
Je me suis posé la question, je crois.
Tous les Pokémon qui sortent à la suite, là.
C'est toujours le même personnage?
Je sais pas.
Non.
Le protagoniste.
Moi, j'ai jamais joué à Pokémon.
Non, le protagoniste est le joueur. Donc, en un sens, c'est un reboot perpétuel, tu vois.
Il n'y a pas de lien entre les épisodes.
Oui, mais attends, oui, voilà. Est-ce que tu as un personnage, tu retrouves un personnage qui est resté dans l'étape où il était dans un épisode?
Non, il y a quelques étapes qui sont les mêmes. Ah, non, si, dans Or et Argent, tu retrouves, bah, justement, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a une mise en abîme à la fin de Or et Argent, c'est que tu retrouves, toi, au terme de ton parcours dans Rouge et Bleu. Enfin, tu affrontes ton, tu es un personnage dans la version Rouge et Bleu, tu vas au bout, tu vins la ligue Pokémon, machin, donc, et dans Or, tu le fais avec un autre personnage et le, on va dire, le défi ultime, c'est d'aller combattre la version de toi-même qui avait fini bleu.
C'est drôle.
Petite mise en abîme comme ça.
Bon, c'est pas reboot du coup pour le coup.
Du coup pas reboot.
Alors, ah ouais, alors du coup ben
suite.
Metaverse. Suite. Le truc des années 2022.
Alors suite, je dirais pas suite parce que tu incarnes pas le même personnage. Vu que tu changes de protagoniste, c'est pas réellement une suite.
Non, c'est
donc, reboot alors.
J'en sais rien. Ouais, ça. Fait... Bon, ouais, c'est pas. C'était pas non plus un vrai relancement de la franchise, donc. J'en sais rien.
Cash c'est machine, des... ça oui.
Cash machine. Cash machine.
Faut trouver un spécialiste de Pokémon.
Cash machine. Un petit remake, remaster ou machin préféré avant de passer à mon petit jeu. J'ai hâte.
C'est pas mon petit jeu ça.
C'est pas comme j'ai hâte. C'est pas mon petit jeu. Ça, c'est une question que je vous pose.
À moi, ça restera Final Fantasy remake.
Ah ouais.
Je resterai bloqué là-dessus. Ouais. Parce que j'ai bien, comme tu as dit, j'ai bien aimé qu'à la fin du jeu, on te dise, eh ben c'est pas comme avant, c'est on change, on grandit, c'est plus pareil, on change d'histoire. Pour moi, ce serait le meilleur remake. Ouais.
Moi, ce serait bah, comme d'hab. Hein, moi, ça va être très PC et si je reviens plus tard dans les prochains épisodes, ça va être beaucoup. J'ai beaucoup parlé de cette série qui a été probablement celle qui m'a le plus marqué moi. Ça va être un remake de Monkey Island.
Ah, il en a parlé,
Monkey Island, moi, c'est...
C'est vrai que c'était... Ouais.
Incroyable. D'ailleurs, hyper pimpé, parce que Ron Gilbert a pu racheter la licence et va ressortir un nouvel épisode.
Ouais.
Il a enfin racheté à LucasArts. Enfin,
avec le Kickstarter, non? Il
sa
a pas
propre
histoire,
licence. Je sais pas, peut-être, mais il a, voilà. LucasArts a enfin lâché le droit, et Ron Gilbert peut, donc le créateur peut à nouveau...
S'amuser avec son bébé.
Faire ce qu'il veut avec son bébé.
T'as fait une réplicante juste par
Non, pas encore. C'est sur ma pile.
Pas encore.
Je le ferai évidemment. Je vais le faire.
Voilà, un autre
parce que pour l'univers de Nier, bien sûr.
Bon, vous voulez passer à mon petit jeu, c'est ça
bah, oui, bah oui. Oui.
Maintenant, tu nous as teasé.
Ça n'a rien à voir. Mais j'ai découvert un site, enfin un type qui a fait ça, qui a construit un site tout simple avec un algorithme évidemment qui est derrière et qui calcule ça. Vous connaissez ce fameux jeu de droite ou de gauche?
Ah, c'est t'as une citation et puis tu dois dire voilà, si c'est
le
droite.
Golf, le golf,
c'est droite.
Le golf, c'est droite. Il y en a des faciles. L'équitation.
Droite. La droite.
Ok. C'est
drôle.
Le camping.
De gauche.
Le camping, c'est plutôt de gauche. Ok. Donc je me suis dit, essayons d'appliquer ça aux jeux vidéo. Donnez-moi des titres et essayons de décider ensemble s'ils sont de droite ou de gauche. J'ai eu des surprises.
Ah, joli.
J'ai eu des surprises. Alors. J'ai vu ce truc-là, je me suis dit, tiens, c'est marrant, on en fait un petit jeu. Je vous en propose un. Si je vous dis... J'ai dit que c'était idiot, mais que c'était très drôle. Si je vous dis Metal Gear Solid, il va falloir argumenter, les amis. Hein.
Front National.
Moi, j'ai pas une idée. Hein.
Gauche.
De gauche, tu dis, toi?
Film antimilitariste qui dénonce les corporations.
Ah, putain, je le vois pro-militariste.
Mais moi, j'aurais dit de droite. Hein.
Et pourtant, c'est un jeu profondément antimilitariste.
Ah, ouais.
Oui, c'est un japonais qui est né après-guerre, qui dénonce une nucléaire et tout.
Eh, t'as raison.
C'est un film profondément antimilitariste.
Non, mais
enfin, un jeu pardon.
Tu dis Metal Gear Solid. Moi, je pense à l'imagerie ultra-militaire.
Eh oui, mais c'est tout le génie de Kojima, c'est de cacher son message derrière une façade de super.
On va voir si l'algorithme décode le génie de Kojima, ce dont je doute. On verra. Metal Gear Solid, c'est de gauche.
Évidemment. C'est comme New York 1997, c'est le film de
gauche. Ah bah oui, ouais.
John Carpenter, c'est un gauchiste, voilà, mais c'est le même personnage.
Vous laissez avec les...
Aux États-Unis.
Ah non, mais comme tu veux, alors, c'est bien, je...
Aux États-Unis, c'est un gauchiste, quoi.
Alors, Elden Ring.
Ah, je le connais pas assez.
Tu le connais pas assez.
J'ai vu la vidéo d'Al 236, du coup, qui...
Bon, bah alors.
Moi, je dirais de gauche.
Sentiment. Toi, tu dirais de gauche. Ouais. Moi, je ne dirais pas mon prono parce que j'ai eu bon, mais je ne vous le dis pas.
Parce qu'on doit tuer.
Je dirais aussi de gauche, quand même.
Tu dirais de gauche ?
Ouais.
Eh bien, Elden Ring, c'est de droite, messieurs.
Et pourquoi ?
Pourquoi ?
Alors, moi, ce à quoi j'ai pensé, je te le dis. Hein, chez moi, franchement, je pense que. Et. Non, tu sais quoi ? Je vais te le dire après. Parce que, de mon point de vue, God of War. Tu vas voir pourquoi je te le dis après.
Ah !
God of War. C'est de droite ou c'est de gauche ?
Il faut renverser l'ordre établi, donc c'est un peu de gauche.
Ouais, c'est vrai, c'est le personnage qui a été banni, justement, qui a perdu
dieux,
son statut,
et
qui doit qui veut récupérer. Et, mais à la fois, c'est... Ah, putain.
Bah, il le fait pour des raisons peut-être de super pouvoir.
Oui, mais ça peut être justement ce côté conquête, hyper capitaliste.
Ah, il est centriste.
Les gars, il n'y a pas de vérité, je veux dire, c'est un algorithme qui décide. Il n'y a pas vraiment des huiles qui se sont penchées sur le sujet en disant, voilà... Il n'y a pas d'autres fous qui se sont mis autour d'une table en disant, les gars, faut qu'on décide, God of War. De droite,
moi, je dirais de droite. Parce que c'est un anti qui a perdu son statut et qui, du coup, va se battre comme un dingue pour récupérer son statut.
C'est quand même le dieu de la guerre, hein. C'est quand même le dieu de la
guerre. J'adore la lecture. C'est un anti qui a perdu son appart à la boule et qui part le récupérer.
Qui doit repartir de Paris à pied, en vélo.
Donc, alors, God of War comme Elden Ring, donc il est de droite aussi, considéré comme de droite. Alors, moi, je vous dis pourquoi j'ai pensé à ça. Moi, je me suis dit, c'est tout le pouvoir de, toute la puissance de l'héritage, je trouve, dans ces jeux-là. Tout ce qu'ils transmettent sur le passé, les choses qui sont durables dans le temps, on dirait, c'était pas Giscard qui avait dit ça?
Donc l'héritage
de droite. Avoir peur, être de droite, c'est avoir peur pour ceux qui existent.
Ah, je connaissais pas cette.
Donc, et moi je trouve qu'il y a un peu de cette peur pour ceux qui existent dans ces jeux-là. Enfin, je trouve que l'héritage est assez. Une valeur de droite, non?
Oui, quand même, la trouille.
Non, mais c'est vrai, la peur de perdre ce qui existe en termes d'héritage et tout ça, c'est très.
Ou de pas être à la hauteur.
Non, c'est vrai. Je vais pas vous contester.
Bon, je fais un facile. Je vais dire The Last of Us.
Avec gauche. Du coup, ouais, gauche.
De gauche. Hein, ok, ouais. Ça ne fait pas débat. Mario Bros.
De droite parce qu'il faut ramasser des pièces.
J'adore. Droite et brutalité animalière.
Ouais, c'est vrai que c'est.
Parce que Yoshi, on lui a rien demandé.
Il
tire sur tout le monde.
Après, tu prends des champignons bizarres. Alors, est-ce que c'est pas de gauche, ça?
Ah ouais, ça c'est de gauche, ça.
Prendre des champignons bizarres, c'est de gauche.
C'est de gauche. Alors,
c'est le meilleur moment de l'émission. C'est de gauche, Mario Bros.
Grâce aux champignons, voilà.
Il n'y a pas de sous-titres, hein. On ne dit pas pour quelle raison.
Ouais, on les trouve, nous.
L'algorithme choisit de gauche. C'est un plombier moustachu italien. Est-ce que ça peut avoir un rapport avec le fait d'être de gauche?
Je ne sais pas. Moi, j'ai pensé aux champignons.
Il est en entreprise ou il est auto-indépendant? Ils sont auto-entreprise, ça.
Alors, est-ce que vous avez d'autres suggestions?
En plus, il veut sauver une
princesse. Moi, je vous en ai donné quelques-unes.
Alors, oui, j'en ai
une. Tomb Raider.
Ah non, Tomb Raider, mais de droite à mort, elle est odieuse.
Ah oui, elle est aristocrate en plus.
Elle est odieuse.
Elle vit dans un manoir, je
crois. Tomb Raider, c'est de droite.
Ah ouais.
Elle vit dans un manoir.
Avec ça. Et mais c'est pas assez une femme forte pour être de gauche, du coup.
Et elle pille des tombeaux, excuse-moi du peu. Elle vole des trucs, elle casse des objets.
On peut être une femme forte et être de droite.
The Beast Story.
C'est pas...
On peut...
Les femmes fortes peuvent être à droite ou à gauche.
Non, c'est pas ce que je dis. Non, c'est
pas de propagande, attention.
Je peux pas dire ce que j'ai pas dit. Les combats pour les droits des femmes sont en général plutôt à gauche de l'échiquier.
Non, mais elle se bat pas pour les femmes, elle se bat pour elle-même.
Encore que je dis ça, mais non, puisque...
Elle est en place.
Historiquement, c'est plutôt de...
C'est aussi de non, il y a c'est vrai qu'il y a un héritage à droite aussi sur le combat des femmes.
Ben, c'est quand même oui.
Comment ça
Oui, on a la même et elle vient pas. Elle va venir. Hein.
Elle va venir.
Je suis pas sûr que les féministes soient à gauche.
Je sais pas. On va pas donner de nom comme ça parce que je veux pas trop politiser l'émission. Je veux quand même que ça reste un jeu, si vous me permettez. On va terminer avec un ou deux comme ça. Alors j'ai eu des surprises. Hein.
Ah.
Final Fantasy 7.
de gauche pour le côté écologiste. Écolo, ouais.
J'ai eu la même réflexion. Final Fantasy VII Remake.
Ouais, je ne connais pas, je ne peux pas. Je peux pas.
Bah pour le coup, ouais, c'est que l'écologie, on en parle aussi, mais est-ce que c'est vraiment le moteur du jeu? Je ne suis pas sûr.
Curieusement donné à droite.
Ouais,
parce que, ben, je ne sais pas, je n'ai pas eu de...
Bon, on n'a pas d'explication sur tout non plus. Hein.
Non.
Des fois, on est...
On ne sait pas. Hein. Pokémon.
Ah, mais de droite, droit, complètement.
Tellement.
C'est les collectionneurs.
On va prendre des petits animaux.
On va se battre entre eux.
Remplace les animaux par des êtres humains.
Par des Ferrari, c'est un mec de droite.
Ou par des êtres humains d'une couleur différente. Et tu verras sur quoi tu tombes.
Quasiment extrême droite, ouais.
Oui, c'est vrai, parce qu'en plus, il faut que tu fasses tes preuves à la fin dans une épreuve interminable.
Non.
Genre, tu passes le bac.
Non, c'est de droite.
C'est de droite, Pokémon. Incroyable. Ouais. Je crois que j'ai plus du tout envie d'arrêter l'émission.
Alors,
je préfère ça pendant des heures.
J'en ai un petit que j'ai en tête depuis tout à l'heure.
Allez, vas-y, dis-moi.
Sonic.
Moi, je dirais de droite. Très américain.
Ah, moi aussi, c'est très américain. Pour moi, c'est très droite.
Il y a des baskets. Il y a des baskets. Et le basket, c'est un truc de jeune, donc c'est plus
un goût. Oui, mais il y a un côté aussi très... Il sauve des animaux aussi, quand même.
Il fait ça pour sauver des animaux. Sa motivation, c'est sauver la planète.
Mais fast, tu vois, c'est, c'est vachement américain. Non,
plus vite, plus vite.
Alors, Sonic, c'est de droite, Sonic.
Ah, c'est
de droite. C'est on dirait un Burger Quiz.
Oui. J'adore ce jeu. Je le trouve génial.
On devrait faire que ça, d'ailleurs. On va enlever toute la partie... Toute la partie discussion, on va faire
ça. Ça marcherait très bien, live Twitch, je pense, avec chat et des gens, qui, c'est sûr.
Tu pourrais faire ça en intro pour.
On pourrait faire ça en intro. Non, alors, où on se le garde en intro, ou on se le garde en conclusion. Aujourd'hui, j'ai voulu vous le proposer en conclusion.
Est-ce que Fallout, c'est un jeu de droite ou gauche?
Fallout, moi, je dirais de droite. Hein. Genre, ce qui conduit à Fallout, c'est quand même le comportement d'irresponsable capitaliste de droite.
Le jeu commence à ce moment-là.
Et d'ailleurs, les protagonistes perpétue la même boucle. Parce que du coup, tu dois en sortir de l'abri pour découvrir qu'en fait,
il y a pas de hippie,
tout le monde réessaye la même chose, à se bouffer la gueule et à dominer le monde.
Eh bien, c'est de gauche. Il est donné de gauche.
Il est donné de gauche.
Donné de gauche. Allez, on termine avec...
Moi, je suis chaud pour toute la nuit. Là,
si non, allez, ça va s'arrêter. On va revenir, on fait un dernier. On va faire, allez, Resident Evil.
Ah, on joue des flics, alors, déjà. Non, mais c'est vrai.
Tout l'univers.
Jouer un ministre de l'intérieur.
Tout l'univers de droite. Umbrella, la méga corporation.
Les zombies, c'est le symbole.
Les zombies, c'est de droite.
Oui, Romero, le premier zombie, c'était pour dénoncer la société de consommation.
Ah, oui, exact. Ouais.
Donc, oui, les zombies sont de droite.
C'est de droite.
Eh oui, tu vois.
On est
super.
Alors, attends, j'ai trouvé pas mal. Hein.
Là, ou pas.
Je nous ai trouvé pas mal en plus.
On a presque aussi à tout justifier.
Parce que le plus difficile,
c'est Mario quand même.
Le plus difficile, c'est de trouver des explications à cette grande gaminerie là. Alors le mieux, moi j'ai adoré le coup des champignons. Mario les champignons.
Mais pièces champignons.
Pièces et les champignons. C'est du centre, hein, en fait.
Pognon ou drogue, voilà.
Bon, merci, messieurs. Je crois vraiment qu'on peut se laisser là-dessus. C'était excellent. Surtout cette fin.
Un grand merci à Romain, surtout.
Un grand merci à Romain de nous avoir accueillis.
Ça m'a fait super plaisir.
On vous a mis dans super conditions, surtout.
On vous dit à rendez-vous dans deux semaines pour les auditeurs d'RCC. Ceux qui nous écoutent en podcast, eh bien, comme d'habitude, hein, vous pourrez retrouver tous les épisodes d'un coup, n'est-ce pas? On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver donc en streaming partout, mais aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou YouTube, hein, notamment. Merci encore à tous. Bonne journée, bonne soirée, hein, que vous soyez, quoi que vous fassiez. À très bientôt. Merci les amis. Ciao.